Chapitre 14, la Révolution de 1848, vue par Victor Hugo. Pour l'année 1847, le journal de Victor Hugo, repris en partie dans Chose Vue, s'achève par la disparition de Madame Adélaïde, la sœur, la confidente du roi Louis-Philippe. Presque tous les matins, raconte l'écrivain, le roi avait une longue causerie, la plupart du temps politique, avec Madame Adélaïde. Il la consultait sur tout et ne faisait rien de très grave contre son avis. Je souffrais de le voir pleurer. On sentait que c'était là de vrais sanglots venant du fond même de l'homme. Car, bien que certains veuillent l'oublier, celui qui vers la fin de sa vie s'imposera comme le défenseur le plus ardent de la République a bel et bien été, sous la monarchie de Juillet, un pair de France, assez proche du roi et surtout de son fils aîné, tragiquement disparu en 1842, pour sécher ses larmes. C'est dire si, à l'aube de 1848, Hugo scrute avec anxiété la tournure des événements. Nous ne pouvions rêver, indiscrets que nous sommes, meilleurs témoins. L'année qui s'achève a été délétère pour le régime de Louis-Philippe. Des scandales d'État à répétition, l'assassinat de la duchesse de Praslin par son mari, pair de France, n'ayant été que le plus éclatant, ont instillé, selon le mot de Lamartine, comme un remords dans la prospérité de la nation. Pour couronner le tout, les chefs de l'opposition dynastique modérés se sont joints à ceux de l'opposition radicale pour exiger une réforme électorale. Ils ont organisé des banquets pour cela. Or, en février 1848, celui du 12e arrondissement de Paris, qui à l'époque représente tout l'est de la rive gauche, est interdit. Voilà ce qui va mettre le feu aux poudres. Mais aux Tuileries, on ne voit rien venir. Le prince Jérôme Napoléon, le plus jeune frère de l'empereur, racontera plus tard à Victor Hugo sa visite à Louis-Philippe à quelques jours de l'embrasement général. Il témoigna au roi quelque inquiétude de l'agitation des esprits. Le roi sourit et lui dit « Mon prince, je ne crains rien ». Et il ajouta après un silence « Je suis nécessaire ». Il était du reste fort gai. La reine, elle, était sérieuse et triste. Elle dit au prince Jérôme « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas tranquille. Cependant, le roi sait ce qu'il fait. » Pauvre Marie-Amélie, aveuglée par l'amoureuse dévotion qu'elle voue à son époux depuis bientôt 4 décennies. C'est le samedi 19 février que Victor Hugo saisit l'imminence du péril. Siégeant parmi les pairs au palais du Luxembourg, il s'ennuie au débat de la chambre haute et note, sur une feuille de papier, « La misère amène les peuples aux révolutions et les révolutions ramènent le peuple à la misère. » Remarque prémonitoire. Poussé sur sa gauche à provoquer une salutaire interpellation du gouvernement, il en est retenu sur sa droite, notamment par le comte Napoléon Daru. Victor Hugo s'insurgera contre ce nanti qui, selon lui, savait le fond de l'émeute. 20 000 ouvriers accourus à Paris depuis Amiens, Beauvais, Rouen, payés, enrégimentés et prêts à une sorte de bataille rangée, les comités révolutionnaires en permanence, tous les symptômes d'une crise, tous les préparatifs d'une journée, et il ne voyait rien dans tout cela que la chute d'un cabinet de plus. En attendant, la révolution couve. On raconte à Hugo que le roi avait jeté dans son tiroir un projet de loi de réforme électorale en disant « Voilà pour mon successeur ». C'est le mot de Louis XV, en supposant que la réforme soit le déluge. Le mercredi suivant, 23 février, l'écrivain ayant vu dans le quartier Saint-Germain une colonne épaisse et interminable d'hommes en veste, en blouse et en casquette, marchant bras dessous, trois par trois, et criant à la réforme, il décide de se rendre au palais Bourbon qu'il trouve en ébullition. À la Concorde toute proche, l'armée charge déjà des émeutiers. Nous sommes descendus sur la place. Les charges de cavalerie tourbillonnaient autour de nous. À l'angle du pont, un dragon levait le sabre sur un homme en blouse. Je ne crois pas qu'il ait frappé. Tout en précisant que Hugo réécrit les choses après coup, concédons-lui une certaine lucidité, je cite. « Place du Châtelet, j'ai entendu un homme dire à un groupe « C'est 1830 !» Non ! En 1830, il y avait le duc d'Orléans derrière Charles X. En 1848, derrière Louis-Philippe, il y a un trou. C'est triste de tomber de Louis-Philippe en Ledru-Rollin. » L'avocat radical, propulsé ministre de l'Intérieur, n'est pas, selon lui, à la hauteur des circonstances. Quant à son goût du drame, personne ne l'ignorait. Minuit sonne en ce moment. Il y a 10 pièces de canon place de Grève. L'aspect du marais est lugubre. Je m'y suis promené et je rentre. Les réverbères sont brisés et éteints sur le boulevard fort bien nommé le boulevard Noir. Le matin du 24, grand jour de cette révolution, Victor Hugo laisse plus que jamais traîner ses yeux et ses oreilles. Le maire du 8e arrondissement, à l'époque celui du Marais et de la Bastille, lui apprend au réveil un massacre d'émeutiers par les forces de l'ordre boulevard des Capucines. Du coup, la garde nationale fraternise de plus en plus avec les insurgés. L'auteur de Ruy Blas fait un tour du quartier de la place des Vosges, qu'il continue d'appeler la place royale, pour prendre le pouls d'une population de plus en plus échauffée. Partout, on travaille activement aux barricades déjà formidables. C'est plus qu'une émeute cette fois, c'est une insurrection, je rentre. Un soldat de la ligne en faction à l'entrée de la place royale cause amicalement avec la vedette d'une barricade construite à 20 pas de lui. Peu après 8 heures du matin, la nouvelle se répand que le roi aurait chargé Thiers et Odilon Barrot de former un ministère, mais avec le terrible maréchal Bugeaud à la tête de l'armée. Hugo ironise. Le roi tend la main droite et montre le poing gauche, alors que le peuple crie partout « Vive la réforme !» et que des échauffourées ensanglantent la place de la Bastille, l'insurrection progresse. On exige le remplacement de Bugeaud et la dissolution de la Chambre. Les élèves de Polytechnique réclament l'abdication du roi, tandis que notre envoyé spécial escalade des barricades pour se rapprocher de l'hôtel de ville, il croise M. de Rambuteau, préfet de la Seine. Je cite. « J'étais dans mon cabinet avec 2 ou 3 conseillers municipaux », raconte le grand commis. « Grand bruit dans le corridor, la porte s'ouvre avec fracas, entre un grand gaillard, capitaine de la garde nationale, à la tête d'une troupe fort échauffée. « Monsieur, m'a dit l'homme, il faut vous en aller d'ici. »« Pardon, monsieur, ici à l'hôtel de ville, je suis chez moi, j'y reste. Hier, vous étiez peut-être chez vous à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, le peuple y est chez lui. » Et le préfet conclut « Puisque vous allez à la chambre, s'il y a encore une chambre, vous direz au ministre de l'Intérieur, s'il y a un ministère, qu'il n'y a plus à l'hôtel de ville ni préfet ni préfecture. De fait, au palais Bourbon, les coups de théâtre se succèdent. Odilon Barrot, chef de l'opposition dynastique, a pris la place de Thiers et Bugeaud a été remplacé par le maréchal Gérard, vétéran de l'Empire, jusqu'alors grand chancelier de la Légion d'honneur. Survient la nouvelle de la dissolution de la Chambre, puis dans la foulée, celle de l'abdication du roi. « Ah, le flot monte, monte, monte !» écrit Hugo. Dans « Choses vues », il racontera, d'après le témoignage de Turet, valet de chambre du roi déchu, la fuite éperdue de Louis-Philippe et Marie-Amélie dans un simple fiacre de louage, et toute leur piteuse équipée annonçant celle en 1870 de l'impératrice Eugénie à travers le Vexin et la Normandie jusqu'à Trouville et Honfleur et de là l'Angleterre. De son côté, notre témoin n'atteint le palais des Tuileries que pour apprendre que la prétendue régente, la duchesse d'Orléans, serait avec son fils en route pour la chambre. Demi-tour, on regagnera le Marais par les quais de la rive gauche. Je cite. Au pont neuf, nous nous croisons avec une troupe armée de piques, de haches et de fusils, conduite tambour en tête par un homme agitant un sabre et vêtu d'un grand habit à la livrée du roi. C'est l'habit du cocher qui vient d'être tué rue Saint-Thomas du Louvre. Place de la Bastille, la foule grondante attend des informations. Victor Hugo, reconnu et pressé de questions auxquelles il tente de répondre de manière apaisante. « Je commençais par annoncer tout de suite l'abdication de Louis-Philippe, et comme à la place royale, des applaudissements à peu près unanimes accueillirent la nouvelle. On cria cependant aussi « Non, pas d'abdication, la déchéance, la déchéance !» J'allais décidément avoir affaire à forte partie. » Le ci-devant pair de France s'en tire plutôt bien, devant une foule de plus en plus hostile, lui, hier encore ami du roi en fuite, est menacé. Je cite « J'ai juré fidélité non à une personne royale, mais à la monarchie constitutionnelle », se défend Hugo. « Tant qu'un autre gouvernement n'est pas établi, c'est mon devoir d'être fidèle à celui-là. Et j'ai toujours pensé que le peuple n'aimait pas que l'on manquât, quel qu'il fût, à son devoir. » Il ajoute « Une voix ». Une seule voix cria « Vive la République !» Pas une autre voix ne lui fit écho. Pauvre grand peuple, inconscient et aveugle. Il sait ce qu'il ne veut pas, mais il ne sait pas ce qu'il veut. À la chambre où les députés, débordés par la foule, ont cédé la place à ce que Hugo décrit comme une sorte d'assemblée révolutionnaire, s'expriment à présent Alexandre Ledru-Rollin et Alphonse de Lamartine. Je cite. Pas une fois le mot République n'avait été prononcé, insiste notre témoin. Mais maintenant, au dehors, dans la rue, ce mot, ce cri, les élus du peuple le trouvèrent partout. Il volait sur toutes les bouches, il emplissait l'air de Paris. Les quelques hommes qui, dans ces jours suprêmes et extrêmes, tenaient dans leurs mains le sort de la France, étaient eux-mêmes à la fois outils et hochets, dans la main de la foule qui n'est pas le peuple, et du hasard qui n'est pas la providence. Sous la pression de la multitude, dans l'éblouissement et la terreur de leur triomphe qui les débordait, ils décrétèrent la République sans savoir qu'ils faisaient une si grande chose. Le lendemain, 25 février, Victor Hugo, accompagné de son jeune fils François-Victor, se rend à l'hôtel de ville en vue de rencontrer Lamartine, justement. « Les rues étaient toutes frémissantes d'une foule en rumeur et en joie, dit-il. On continuait avec une incroyable ardeur à fortifier les barricades déjà faites et à en construire de nouvelles. » Devant l'hôtel de ville, la place était comme la veille couverte de foule et cette foule autour de l'hôtel de ville était si serrée qu'elle s'immobilisait elle-même. En nous voyant passer, un homme du peuple se détacha d'un groupe et scampa devant moi. « Citoyen Victor Hugo, dit-il, criez vive la République !»« Oh, je ne crie rien par ordre, dis-je. Comprenez-vous la liberté ? Moi, je la pratique. Je crierai aujourd'hui vive le peuple parce que ça me plaît. Le jour où je crierai vive la République, c'est parce que je le voudrais. » Disons, par souci de vérité, que les détails de l'entrevue des deux écrivains relèvent peut-être moins de l'histoire que de la légende hugolienne, mais ils offrent à cette chronique un savoureux point d'orgue. Je cite. « Lamartine se leva à mon entrée. Sur sa redingote boutonnée comme d'habitude, il portait en sautoir une ample écharpe tricolore. Il fit quelques pas à ma rencontre et me tendant la main, « Ah, vous venez à nous, Victor Hugo, c'est pour la République une fière recrue. N'allez pas si vite, mon ami, lui dis-je en riant. Je viens tout simplement à mon ami Lamartine. Vous ne savez peut-être pas qu'hier, tandis que vous combattiez la régence à la chambre, je la défendais, place de la Bastille. Hier bien, mais aujourd'hui, il n'y a plus aujourd'hui ni régence ni royauté, il n'est pas possible qu'au fond Victor Hugo ne soit pas républicain. En principe, oui, je le suis. La République est à mon avis le seul gouvernement rationnel, le seul digne des nations. La République universelle sera le dernier mot du progrès, mais son heure est-elle venue en France? C'est parce que je veux la République, que je la veux viable, que je la veux définitive. Lamartine finit par attirer son confrère dans l'intimité d'une embrasure. « Ce n'est pas une mairie que je voudrais pour vous, c'est un ministère. Victor Hugo, ministre de l'Instruction publique de la République, voyons, puisque vous dites que vous êtes républicain. » « Républicain, en principe. Mais en fait, j'étais hier pair de France. J'étais hier pour la régence et croyant la République prématurée, je serais encore pour la régence aujourd'hui. » « Les nations sont au-dessus des dynasties, reprit Lamartine. Moi aussi, j'ai été royaliste. Vous étiez, vous, député, élu de la nation. Moi, j'étais pair, nommé par le roi. Le roi, en vous choisissant au terme de la Constitution, dans une des catégories où se recrutait la Chambre haute, n'avait fait qu'honorer la pairie et s'honorer lui-même. Je vous remercie, dis-je, mais vous voyez les choses du dehors. Je regarde dans ma conscience. » Un fracas de fusillade les interrompt un moment, puis Lamartine conclut « Ah, mon ami, que ce pouvoir révolutionnaire est dur à porter, on a de telles responsabilités, et si soudaines à prendre devant la conscience et devant l'histoire. Depuis 2 jours, je ne sais comment je vis. Hier, j'avais quelques cheveux gris, ils seront tous blancs demain. Oui, mais vous faites grandement votre devoir de génie, lui dis-je. » Telles seront la fortune et l'infortune du romantisme en politique. Lamartine, écarté du pouvoir dès juin 1848, sera humilié à la présidentielle de décembre avant de sombrer dans l'oubli. Hugo, tout au contraire, après bien des vicissitudes, grandira dans la pose du défenseur exilé de la République et mourra moins de 4 décennies plus tard au sommet de la gloire.